VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Abidjan, 19h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Processus de paix israélo-palestinien. Le secrétaire d'État américain John Kerry a défendu aujourd'hui à Washington la décision de l'administration Obama de s'abstenir lors du vote au Conseil de sécurité de l'ONU qui a conduit à l'adoption dimanche d'une résolution réclamant l'arrêt du développement des colonies juives dans les territoires palestiniens occupés. Pour le chef de la diplomatie américaine, le refus de Washington d'opposer son veto à cette résolution reflète l'attachement des États-Unis au principe d'une solution du conflit israélo-palestinien passant par l'existence de deux États, Israël et la Palestine, coexistant en paix et en sécurité. Une solution menacée par le renforcement des colonies israéliennes de peuplement en Cisjordanie. John Kerry a également réitéré le soutien de l'administration Obama à Israël et rejeté les critiques de l'État hébreu qui reproche au gouvernement américain actuel de s'être abstenu et de ne pas avoir fait usage du droit de veto des États-Unis au Conseil de sécurité comme Washington le fait d'ordinaire à l'ONU quand Israël est mis en cause. Conflit en Syrie, la Turquie et la Russie ont convenu de mettre en œuvre ce soir à partir de minuit heure locale un plan de cessez-le-feu pour la Syrie. Gabi Dorsil nous en dit plus.
L'agence officielle Anadolu indique que l'objectif visé est la cessation complète des hostilités dans la deuxième ville de Syrie, Alep, mais à l'exclusion des groupes terroristes. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a fait savoir, selon Reuters, qu'Ankara demeure ferme dans sa position sur le départ de Bachar al-Assad. Deux textes sont déjà prêts pour une solution en Syrie. L'un vise une résolution politique du conflit et l'autre concerne un cessez-le-feu. Ils peuvent être mis en application à n'importe quel moment, a ajouté le chef de la diplomatie turque. La semaine dernière, la Russie, l'Iran et la Turquie ont adopté une déclaration conjointe définissant les grandes lignes d'un éventuel accord sur la Syrie. Le président Vladimir Poutine a annoncé la tenue prochaine de pourparlers à Astana, la capitale du Kazakhstan, entre les trois pays.
L'Afrique maintenant, en RCA, le président déchu François Bozizé qui vit en exil au Kenya préconise l'organisation d'un forum de réconciliation nationale pour trouver des solutions à la crise dans le pays. Proposition rejetée par le gouvernement du président Faustin Archange Touadéra qui souligne que François Bozizé est non seulement sous le coup d'une sanction de l'ONU, mais aussi fait l'objet d'une poursuite judiciaire dans son propre pays. Mais pour Joseph Bendouga, le leader du MDREC, un parti d'opposition, la présence de François Bozizé à ses assises est souhaitable. Joseph Bendouga.
Tous les Centrafricains sont appelés à débattre de leur pays, sauf si Bozizé doit répondre devant la justice. Mais à ce que je sache, Touadéra a co-géré la République Centrafricaine jusque un mois et quelques jours. C'était l'accord de Libreville qu'il a relevé de ses fonctions. Si Bozizé doit aller devant la justice, mais Touadéra, premier ministre, chef du gouvernement, pendant cette période-là, doit aussi répondre de cela. Donc je ne pense pas que c'est seulement Bozizé qui doit répondre devant la justice centrafricaine. Mais Touadéra, 5 ans durant, était premier ministre de Bozizé. En ce temps-là, il y a eu l'avènement de la LRA, celle de la SELECA. Il est co-acteur de la crise centrafricaine, tant comme les chefs rebelles que Bozizé.
Joseph Bendouga, président du MDREC, le Mouvement démocratique pour la renaissance et l'évolution de Centrafrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Niger, les combattants du groupe islamiste nigérian Boko Haram, qui a mené depuis 2015 des attaques très meurtrières dans le sud-est du pays, sont totalement en déperdition. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi Bazoum Mohamed, le ministre nigérian de l'Intérieur, en visite à Difa, ville proche du nord-est du Nigeria, berceau de Boko Haram. Bazoum Mohamed avait déjà annoncé mardi qu'une trentaine de combattants de Boko Haram originaires de Difa avaient déposé les armes et s'étaient rendus aux autorités nigériennes. Plus de détails avec Lionel Gaïma.
31 jeunes, plus exactement, dont 4 femmes, enrôlées il y a quelques années dans les effectifs de Boko Haram. Une déclaration faite sur les réseaux sociaux par Bazoum Mohamed en visite à Difa, c'est la première fois que les autorités nigériennes font état de désertion de ressortissants nigériens de rang de Boko Haram qui mènent des attaques meurtrières depuis février 2015 contre le Niger. Ces jeunes pourront bénéficier d'une amnistie et, avant de regagner leur famille, ils bénéficieront d'un programme de déradicalisation et des projets de réinsertion socio-économique. En janvier 2015, un responsable municipal de Diffa avait signalé des départs nombreux de jeunes qui étaient de plus en plus attirés par les offres de Boko Haram, qui leur propose jusqu'à 300 000 francs CFA par mois, environ 500 euros par mois.
Le Maroc a dépêché en Mauritanie une délégation gouvernementale qui a été reçue ce mercredi par le président mauritanien pour, selon un communiqué du Maroc, dissiper tout malentendu après des propos polémiques d'un responsable marocain. Les précisions de John Lindon.
Le 24 décembre, Hamid Chabad, secrétaire général de l'Istiklal, le parti historique de la lutte pour l'indépendance marocaine, avait déclaré que la Mauritanie était une terre marocaine, des propos vivement dénoncés à Nouakchott par l'ensemble des formations politiques. Dans le but de dissiper tout malentendu qui pourrait avoir un impact négatif sur les excellentes relations entre les deux pays, souligne un communiqué du Palais Royal, le Maroc a donc dépêché en Mauritanie une délégation conduite par son chef de gouvernement, Abdelilah Ben Kiran. Au président mauritanien Mohamed Oul Abdelaziz, qui l'a reçu, M. Ben Kiran a affirmé que les déclarations de M. Chabad n'engagent que lui-même.
Rétrospective 2016, aujourd'hui les points saillants de l'actualité au Togo pendant l'année écoulée avec notre correspondante à Lomé, Kai Lorson.
2016, une année post-électorale au Togo, donc moins mouvementée sur le front social et politique, même si en cette fin d'année, la grève des enseignants qui secoue le monde éducatif togolais n'a pas encore trouvé un terrain d'entente entre l'État et les grévistes. 2016 a été une année très diplomatique pour le Togo. Le pays a débuté cette année qui s'achève en honorant ses fils et filles de l'extérieur à travers l'événement « Réussite diaspora ». Les réussites diaspora sont des distinctions honorifiques qui priment le travail de la diaspora togolaise. Claude Gruniski, cofondateur du groupe médiatique Trust, fait partie des 7 lauréats de la première édition.
Le plus important, c'est d'insister sur la transmission de savoir, d'expérience et de connaissances.
3 mois plus tard, le printemps de la coopération germano-togolaise s'est tenu à Lomé pour renforcer sur le plan économique les liens historiques entre l'Allemagne et le Togo. Le Togo a brillé sur le plan continental en organisant en octobre dernier le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Une session qui a été couronnée par l'adoption et la signature de la charte de Lomé sur la sécurité maritime. Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Union africaine.
Je voudrais vous remercier et féliciter pour votre sage et consensuelle décision d'adopter et de signer la charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement.
Pour cause de ce sommet sur la sécurité et la sûreté maritime, la rentrée scolaire prévue pour le 26 septembre a été reportée au 17 octobre, soit au lendemain du dit sommet. Un report qui n'a pas été du goût des parents d'élèves. Laissou Coco Géraldo, président du comité des parents d'élèves des écoles privées laïques du Togo.
On ne s'y attendait pas, 3 semaines c'est trop. Et surtout que les raisons n'ont pas été clairement évoquées. Les enfants, pratiquement depuis mi-juin, sont à la maison. Et vous savez, quand les vacances durent trop, il y a les conséquences qui s'en suivent.
L'une des situations qui a ému le Togo en 2016 est le décès de la Togolaise Amélie Sizing au Liban, dont le corps a été rapatrié le 15 novembre dernier. Des Togolaises immigrées professionnelles vivent l'enfer dans des pays du Golfe, à en croire le témoignage de cette victime.
J'étais au Liban, j'ai fait Liban-Koweït, mais le Koweït c'est plus dur que tout. C'est le travail, esclavage.
Sur le plan sportif, après près de 3 ans de suspension du championnat de football de première division, le ballon a repris par rouler sur les différentes pelouses depuis le 11 septembre. Une promesse de campagne de l'actuel président de la Fédération togolaise de football, Guy Kossi-Akpovi. L'autre promesse faite par l'instance dirigeante du football togolais était la qualification des éperviers à la Coupe d'Afrique des Nations CAN-Gabon 2017. Henri Diagba, directeur de campagne.
Nous avons raté le mondial. Inch'Allah, pour les 4 ans que nous avons devant nous, nous allons aussi qualifier l'équipe portugaise pour cette phase de groupe.
L'année 2016 s'en va. Les Togolais attendent le traditionnel discours du président de la République à l'orée de la nouvelle année pour d'éventuelles annonces. Les syndicalistes demandent déjà l'ouverture du dialogue social. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.